Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble.
Ask, what goes what? Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie. Life de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. Laurent c'est pour parler, bienvenue sur le podcast.
And the news.
Direct d'une chambre à coucher de Rosemont, Montréal, c'est que je me suis réveillé et j'ai tout de suite ramassé mon petit micro, celui qui s'insère dans le iPhone, et j'ai décidé d'enregistrer mon podcast. Je veux dire, c'est un peu la magie des podcasts audio. Je peux les faire évacher en grâce matinée. Énorme semaine pour la boxe professionnelle. On a vu le combat de Katie Taylor. Décision questionnable contre Amanda Serrano. Je dois vous avertir avant même de commencer. Je suis affublé de la COVID longue. Donc, je peux aller travailler, mais j'ai des problèmes au niveau pulmonaire et j'ai des problèmes au niveau du raclement de gorge. J'ai comme tout le temps un moton dans le fond de la gorge. Et je préférais plus avoir un moton dans mon portefeuille. Mais ça, c'est un autre dossier. Et j'ai le nez qui coule. Donc, ça va donner le podcast que ça va donner. Ça se peut que vous entendiez des raclements et de la toux. Mais là, c'est gratuit, je vous appellerai pour vous plaindre. On va parler de Katie Taylor, décision questionnable, Liam Smith, Shakur Stevenson. On va préparer la table pour Canelo Bivol. On va parler du décès de Bob Miller. Il y a un tournoi qui a été annoncé incluant Marie-Ève Dicker, Bazinian contre Cosseres, Rivas contre Rosensky, et on va faire la tournée des nouvelles internationales et je vais saluer des auditeurs. Donc, voici l'épisode 124. Là, maintenant, je vais vous dire, hier, j'étais chez moi, puis je sais pas ce que j'ai depuis que j'ai eu la COVID. Là, je me sens comme si je m'étais battu avec un rhinocéros. Je suis vraiment faible. Puis, si je me donne pas un coup de pied au derrière, je sortirai jamais de la maison. Je reste dans mon petit sofa. Puis là, j'étais chez nous, puis je réfléchissais. Puis là, toute la semaine, j'ai eu un début de dépression. Parce que je trouvais que ma vie est vraiment plate. Je me lève à 5 heures. Je me prépare. Je vais travailler. Je reviens en autobus. Il est encore 5 heures. Tu sais, je pars quasiment de 5 à 5. Je me couche à 9. Il n'y a rien à faire le soir. Le Canadien ne gagne pas. Mes amis sont tous mariés et ont des enfants. Moi, j'ai oublié de me marier. J'ai oublié d'avoir des enfants parce que je me suis marié avec la boxe professionnelle et elle ne m'a pas donné d'enfants. Fait que là, je trouve ma vie plate et routinière. Puis là, c'est un problème. Puis je me suis dit hier, et s'il faut que tu commences à rien faire les fins de semaine, ça va vraiment mal aller. Fait que là, je me suis habillé, puis à toute vitesse, j'étais allé au cinéma au Quartier Latin, j'étais allé voir Norbourg. OK, ça, c'est intéressant. C'est Vincent Lacroix, à l'époque. Il manipulait des fonds communs, falsification de documents. En gros, je vais vous l'expliquer, là, c'est un peu le système de la pyramide de Ponzi. Les gens ne le savent pas, mais je suis aussi expert en placement. C'est que tu convaincs des gens de te donner de l'argent que tu gères pour eux, pour leurs vieux jours, et tu leur produis de faux rapports financiers comme quoi ils ont eu un bon rendement. Exemple, entre 12 et 15 %. Fait que quelqu'un te donne 100 000, tu lui fais un faux rapport à la fin de l'année. Tu te rends à 115, monsieur. Le gars, bien content, il ne sera pas porté à sortir son argent. Pendant ce temps-là, toi, tu prends le 100 000 du monsieur, t'es chez Paris, tu t'achètes des tables d'un galop de boxe, tu fesses toi. Là, quelqu'un dans ton équipe va te dire « ça n'a pas de bon sens ». Là, tu vas dire « non, fais-moi confiance, on est en train de croître ». C'est important de montrer ce succès-là pour attirer des nouveaux investisseurs. Et ça a tendance à fonctionner. C'est que là, tu attires beaucoup de nouveaux investisseurs. Tant que le marché va bien, ça tient. Tu progresses. Il y a une personne sur 100 qui veut sortir à chaque année. Tu lui donnes l'argent d'un nouvel investisseur, puis la vie va bien, est belle. Mais quand la bourse commence à ne plus fonctionner, que l'autorité des marchés financiers se rend compte que tes papiers n'ont pas de bon sens, mais là, le château de cartes s'écroule. Et c'est vraiment ce que le film nous montre. Le film nous montre le stratagème financier. Il ne nous parle pas vraiment des victimes. On est vraiment dans le stratagème financier, puis comment l'autorité des marchés financiers et la GRC est arrivée à coincer Vincent Lacroix. Vincent Lacroix, il a volé plus de 130 millions aux Québécois, Québécoises. Il n'aura même pas fait 3 ans de prison. Puis, il y a 14 millions cachés à l'abri de l'impôt, dans des abris fiscaux. Mais le gouvernement s'est assuré qu'il ne sera jamais capable de retrouver son 14 millions. Fait que lui, il a 14 millions là, d'un compte en Suisse. C'est un film que je vous recommande. Attendez-vous pas à avoir de l'action à tout casser. Mais si vous êtes fasciné par les finances personnelles, si vous êtes fasciné par les fonds négociés en bourse, les actions, les finances personnelles, vous allez y trouver votre compte. C'était la chronique Cinéma et COVID longue.
Je leur donne mon point com, la fin de vos emails. Je pourrais leur vendre plus de punch que Yvon Michel.
Je suis un gros consommateur de rap québécois, puis cette semaine, j'ai téléchargé l'album de Suspecté et Sadamos, deux gars que j'adore, des artistes de talent. Et là, sur une des chansons, l'album s'appelle Saint Graal, pour ceux qui s'intéressent d'aller voir sur iTunes Store. Et là, sur une de leurs chansons, ils ont fait un punch avec, dans le monde du rap, un punch, c'est... Quand tu vas citer quelqu'un. Puis là, ils ont cité Yvon Michel dans une de leurs chansons. Et ça m'a fait sursauter. J'étais content. J'étais wow, tu sais. On parle de rap ici. Hier, il y avait un combat d'une extrême importance. Peut-être le combat le plus important de l'histoire de la boxe féminine. C'était un combat disputé chez les 135 livres entre Cathy Taylor et Amanda Serrano où tous les titres étaient en jeu. Et dans une décision des plus questionnables, Cathy Taylor l'a remporté contre Amanda Serrano. Taylor s'est fait faire mal au 5e, au 10e. À chaque fois qu'elle voulait échanger avec Serrano, elle se faisait punir. Est-ce que le 5e round aurait dû être un 18 ou pas? Moi, je crois que oui, parce qu'à un moment donné, là, quand tu te fais dominer 60 coups de poing à 2, puis que tu as les jambes comme des spaghettis trop cuits, il faut que le 18 soit déposé. Ça existe, un 18. C'est pour domination complète, sans que l'adversaire tombe. Tu as le droit de déposer un 18. La fille, elle s'est rendue dans son coin... Un peu comme je revenais chez nous après mes soirées au Diable Vert dans les années 2000. Ça n'avait pas de bon sens. Il fallait donner un 18. Ils l'ont pas fait. À la fin du combat, Taylor avait l'air magané. Là. Elle avait le nez twisté d'en face. Elle saignait. Elle avait la face ballonnée. Elle avait les yeux comme rouges. C'était pas beau, OK? Mais les juges... Mais elle est revenue, tu sais, après le 5e, elle est revenue, elle a gagné des rondes. Je dis, c'est ça un peu le problème des mauvaises décisions, c'est qu'on va accrocher sur la mauvaise décision, puis on va pas parler de d'autres choses. Mais ce fut le plus grand combat de l'histoire. Puis Taylor s'en est sorti avec une décision partagée des juges. Puis à la limite, ça ne me dérange pas si Taylor donne une revanche automatique à Amanda Serrano. Si elle se cache puis elle en profite pour faire des combats plus faciles, je vais vraiment être insulté. Tu vois, moi, je vais vous le dire, là, je pensais que c'était 8-2 pour Serrano. Les juges remettent 97-93 Taylor, 96-93 Taylor, parce que ce juge-là a mis un 18, et 96-94 Serrano, c'est le score de Benoît Roussel. C'est Serrano qui a provoqué le combat toute la soirée. C'est elle qui a provoqué l'action. Taylor avait l'air de courir tout le combat. Serrano était trop rapide, lançait trop de volume, était trop forte, puis était trop talentueuse pour Katie Taylor. Mais Taylor aussi, elle accrochait un peu dans le combat. Mais moi, j'ai surtout été impressionné par Serrano. Puis là, après ça, tu sais, elle perd au juge. Hein, c'est frustrant. Puis on sent toute la puissance de Eddie Hearn. Tu sais, à une semaine d'un combat entre Bivol et Canelo, on sent comment Eddie Hearn et Matchroom Boxing est quasiment impossible à vaincre. Tu sais, ainsi va la vie. Genre, tu peux pas battre Eddie Hearn, tu sais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Quand t'es complètement shaky, il faut donner un 18. Ça n'a pas été fait. Je ne sais plus quoi penser. Mais je donne énormément de crédit aux deux boxeurs. Combat du siècle. Je vous dis, la seule affaire qui accrocherait pour moi, c'est si on n'a pas le combat revanche. Parce qu'il faut... un combat revanche, tu peux pas laisser ça comme ça. Là. Une split décision, ça devrait être combat revanche obligatoire. Je devrais même pas avoir le moyen d'essayer de t'en sortir. T'sais. Mais elle avait donné un combat. Katie Taylor avait donné un combat revanche, si ma mémoire est bonne, elle est bonne, tout de suite à Delphine Person. Mais ça fait une couple de fois là, que Taylor est chanceuse et elle s'en sort au juge. Elle s'en était sortie au juge contre Delphine Person en 96-94, deux fois, puis un juge avait nul, si ma mémoire est bonne. Elle a donné une revanche à personne, où elle a mieux paru, mais c'était aussi serré, finalement. Contre Natasha Jonas, même chose, elle était impliquée dans un combat de tous les moments. Jonas a décidé de monter de catégorie de poids, et là, elle a fait la même chose contre Serrano. Tu sais, Taylor, elle a énormément de... Il faut lui donner énormément de reconnaissance, mais elle est chanceuse avec les juges parce qu'il y a trois combats qui auraient pu aller de l'autre côté et personne n'aurait été insulté. Donc, bravo. En sous-carte, Liam Smith a battu Jesse Vargas et de plus en plus, on pense que Liam Smith sera opposé à Tim Tzu pour le titre vacant de la WBO. Donc, à suivre, Francon Crew de Zern et Ilin Ceredos. Il n'y avait pas de favorite dans ce combat d'unification complète chez les 168 livres. Et moi, j'ai pas averti la planète entière. J'ai averti mes deux meilleurs amis box, Théodora et Kenny Sherry. Je leur ai dit, regardez... Franklin Crew de Zun va gagner facilement. Faites de l'argent sur les sites de Paris. Tout le monde est d'accord. Tout le monde s'est mis riche. Ça me fait plaisir, les amis, de vous aider avec vos CELI. J'avais averti Martine Vaillard-Bisson qui a écouté le gala d'un bout à l'autre. J'y avais dit Austin Hamo-Williams, c'est le the next big thing. C'est la grosse affaire. 2 minutes 25 qui couchait Curdle Booker à terre. Curdle Booker, c'était un bon boxeur. Mais savez-vous ce qui est arrivé avec le pauvre homme? À la suite de son combat contre Well Osmotoso, je pense en sortant du ring, c'est viré une cheville puis il est plus jamais revenu de même. Je voulais que je vous dise, c'est dangereux de se virer une cheville. Il y avait aussi Galal Yafai, un bon boxeur chez les 111 livres, qui a réglé ça vite. Et Sky Nicholson, qui est dans le collimateur de Martine Vallière-Bisson, a battu Shadeka, Paisley, Davis. Et là, tout le monde est impressionné. Sky est bonne, Sky est ci, Sky est ça. La journée que ma Martine Vanier-Bisson va mettre la main sur Sky Nicholson, on va dégonfler la grosse balloune des Anglais. C'est ça qui va arriver. J'espère, moi je m'attends à ce que Martine se batte en Angleterre contre Sky Nicholson dans les prochains mois. Là, eux autres sont énervés, ils sont pas peureux. Ils vont téléphoner, puis ils vont nous... Ils vont inviter Martine. Martine va partir, va gagner une coupe de livres sterling, puis elle va aller surprendre Sky Nicholson. Puis après ça, ils feront une revanche. Elle va la surprendre encore. Puis là, Martine demandera le double de la bourse. Puis elle pourra s'acheter un beau petit condo à Longueuil. Puis elle va être 7-0. Puis après ça, ce sera les championnats du monde, puis tout. Puis c'est ça. Dommage que Martine ne croit plus à l'amour, parce qu'en fin de carrière, je l'aurais épousée. Mais c'est un autre dossier. Aussi, en fin de semaine, il y avait d'autres... Elle doit être fâchée après moi. Il y avait d'autres combats. Christophe Glowacki a battu Francisco Rivas. Un Francisco Rivas qu'on a bien connu au Québec parce qu'il nous l'amenait souvent contre se battre ici. Il n'y a pas eu grands autres combats, là. Oscar Valdez affrontait Shakur Stevenson. Puis moi, j'étais un peu plate parce que j'avais dit à tout le monde, vous voyez ça comme le... le plus grand combat de l'histoire. Moi, je vois juste Shakur Stevenson qui va s'essuyer les pieds avec Oscar Valdez. Je pense que vous ne comprenez pas à quel point Shakur Stevenson est bon. Puis là, finalement, Shakur l'a traversé d'un bout à l'autre. Défensivement, c'est Hall of Fame. Hall of Fame défensive. Là. Top 5 des meilleures défensives de l'histoire de la boxe. Et de plus en plus, là, Shakur, il a vieilli. Il est rendu à 24 ans, maturité physique, il est plus imposant dans le ring. Ce ne sera jamais un cogneur one-shot. Mais je vous le dis, Shakur Stevenson est spécial. Sinon, on avait Keyshawn Davis qui a battu Esteban Sanchez. Les gens ont décollé que Davis. on cherche beaucoup la prochaine grande star américaine. C'est possiblement Keyshawn Davis. Il y a eu une victoire de Troy Hailey, qui est un autre méga prospect qu'on était supposé voir ici. Puis le petit-fils d'Ali a continué à battre des tout croches. Puis on... Le gars, tu sais, sa meilleure qualité, c'est être le petit-fils d'Ali. Mais pour le moment, ça fonctionne assez fort, merci, être le petit-fils de Mohamed Ali. Je pourrais mettre une publicité ici, mais pourquoi? J'en ferai pas de publicité ou je vais vous faire un live. Éventuellement, une publicité live en plein milieu. La semaine prochaine, Dimitri Bivol va affronter Saúl Canelo Alvarez. On va en parler. Ça, c'est un combat très intéressant. Pourquoi? Dimitri Bivol, je vous ferai pas une analyse d'une heure et demie, là. Dimitri Bivol est plus gros. Il est plus grand que Canelo. Mais... contrairement à tous les autres que Canelo a affrontés, Bivol est possiblement plus rapide que Canelo. Et Bivol lance excessivement de jabs. C'est un gars qui a un haut volume pour sa catégorie de poids et qui n'est pas flashy. Il a pas tendance à tomber dans le sport-spectacle. Lui, il est plus dans le sport. Mais j'ai l'impression que Bivol, il sait pertinemment bien que s'il n'en fait pas plus que le client en demande, il n'a pas de chance de gagner au juge contre Saúl Alvarez. Donc, mon idée, c'est qu'on va voir un Bivol légèrement plus agressif et plus porté à l'avant que d'habitude, qui va lancer beaucoup de jabs, mais qui va essayer de timer des mains arrière aussi, contre Canelo, qui est juste le boxeur parfait, mais là, je crois que Canelo, il exagère un peu avec les 175, c'est trop gros pour lui. Bivol a plus de qualité de boxeur que Alvarez, qui a jamais voulu lancer, c'est que Kovalev, qui a jamais voulu lancer sa main arrière. Ma prédiction, ça va être compliqué pour Canelo en début de combat. Il va s'ajuster. Et il va gagner 116-112 au juge. Et Eddie Hearn va pousser un soupir de soulagement. Et Bivol va avoir l'air d'un gars qui s'est fait voler. Pas voler, mais un gars qui méritait un meilleur sort. Tu sais, oh, ça aurait pu être une nulle. Ça aurait pu être Bivol par un point. Canelo peut-être pogner son top où il peut aller là, à 175 livres. C'est ma prédiction. Mais ça va être grandiose. C'est présenté sur DAZN le 7 mai prochain. Ça coûte 60$. En demi-finale, Philippe Ergovic contre Zhai Lezhang. Ça, je suis content parce que Zhai Lezhang, c'était comme le poids lourd parfait. Un Chinois de 6 pieds 6 qui bougeait comme un poids moyen, qui était super bon, qui avait donné du fil à retordre à Anthony Joshua. Mais s'est ramassé à vieillir, sa carrière était bizarrement menée. Fait que là, aujourd'hui, il a 38 ans, son nom, c'est Big Bang. Il avait passé pro en 2014. Là, s'est ramassé avec des inactivités, pas inactifs, mais des combats qui servaient un peu à rien. Tu sais, en 2018, le gars, c'est un Olympien, il avait déjà 34 ans, il affrontait Don Ensworth. Là, après ça, il va battre Audrey Rudenko, ça, c'est très bon. Il va battre Devin Vargas, qui était un solide. Il va faire un match nul contre Jerry Forrest. Il n'arrive pas à s'envoler. Il n'a jamais l'opposition qu'il a besoin. Et là, il accepte un combat d'aspirant obligatoire de la IBF contre Philippe Ergovic. Sylvain Pelletier vous dirait que c'est un combat rêvé pour les fans de boxe olympique. Parce que c'est deux gars qui ont à peu près tout gagné sur la scène internationale amateur. Et là, s'affrontent. Donc ça, c'est très bon. Après ça, Montana Love, qui est un des gros prospects américains, c'est la journée des prospects américains, va affronter Gabriel Colas Valenzuela. Quand Montana Love se bat, regardez, c'est bon. Et l'Ouzbek, Shakram Giyasov, qui est en montée chez les 147 livres, Lui va affronter Christian Gomez. Donc, la sous-carte est correcte. Moi, c'est, de ce temps-ci, j'avais une petite tendance à écouter peut-être moins de combats, un peu dans mon cerveau. Mais cette carte-là me donne vraiment envie de l'écouter d'un bout à l'autre. Surtout à cause de Montana Love et Ergovic. Et Shakram Giyasov, que j'ai dans ma liste des 147, aussi bien faire du scouting sur lui. Donc, je vais regarder ça avec beaucoup de... C'est quoi le mot que je cherche? Ça me prendrait un co-animateur quand il manque des mots. Je vais écouter ça avec beaucoup d'intérêt la semaine prochaine. Et la question est toujours la même. Est-ce que Canelo finira par dire oui à Arthur Beterbiev?
Trudeau, il est là à cause de son nom de famille. Si c'est Baillargeon, il n'est pas là. No offense, les Baillargeons, vous êtes fins.
On vous aime.
Et vous faites du bon pâté.
Décès de Bob Miller. Bob Miller, c'est sûr que vous connaissiez. Là. C'était le plus grand cutman de son époque. Bob, il était partout. Dès qu'on écoutait les combats, moi, je suis né en 82, fait que mon cerveau, il fonctionne à partir à peu près de 95 jusqu'à aujourd'hui. Fait que de 1995 à 2016, j'ai vu Bob Miller partout. Avec Adonis, Lucien Bouté, David Lemieux. Je l'ai vu avec Mike Tyson, avec Tyson Fury. C'était le plus grand, le meilleur cutman de notre époque. C'était un monsieur qui était il était facile à reconnaître. On le voyait pas, là. Il était dans le coin du ring. Là. Il faisait sa job, mais c'était le meilleur cutman. Lui, il arrivait avec ses outils, puis il pouvait clairement sauver un boxeur qui s'en allait sur une défaite parce qu'il était coupé. Le meilleur de sa profession, un gars qui a passé littéralement sa vie dans le monde de la boxe. Ses fils, Sean et Shannon, je pense qu'il y a trois fils, il y en a deux qui ont boxé chez les professionnels. Et lui, il était propriétaire d'un gym de boxe qui s'appelait Uncle Sam Boxing à Troy, dans l'État de New York. Il a été gérant, promoteur, entraîneur. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait, Bob Miller. Et en 2016, il y avait eu un accident de voiture qui l'avait gardé paralysé. Et là, il avait besoin d'un genre de camion-caravane spécial. Puis, ça avait fait un peu d'histoire parce que, tu sais, lui, il avait permis à des boxeurs comme Tyson Fury de surmonter des coupures puis de continuer des combats. Mike Tyson, la même chose. Puis, l'argent qu'on essayait de trouver pour Bob Miller n'était pas si élevé que ça. Mais ça se battait pas aux portes pour faire des dons. Puis finalement, moi, je vais vous le dire, je pense qu'on n'a pas le droit de le dire, c'est Adonis Stevenson, sous couvert de l'anonymat, qui a payé le Dodge Caravan modifié là, avait pour Bob puisse rentrer avec sa chaise roulante puis tout. Fait qu'Adonis avait donné l'argent, quelque chose comme 75 000. Je pense qu'il avait donné, je sais pas les chiffres, là. Je m'en allais avancer des faux chiffres, mais... Je me rappelle, c'était 75 000, le GoFundMe. Je me rappelle, c'est Adonis qui l'a réglé. J'ai pas les montants pis tout, mais c'est pour la petite histoire. Donc, on perd un des grands de l'histoire de la boxe. Un gars qui a fait énormément, qui a permis à beaucoup de boxeurs de surmonter des coupures pour continuer leur combat de championnat du monde. Et c'est le... probablement le Cotman le plus fameux des années 90-2000 avant sa blessure. C'est un art, ça, être Cotman, et Bob Miller le maîtrisait. Cette semaine, on va rester sur la scène québécoise. On a appris, et là, j'ai eu l'air d'un épais, comme d'habitude. Ça m'arrive un peu trop souvent de ce temps-ci, je vais vous dire la vérité, là. J'ai des grandes idées dans ma tête, puis je me convainc de mes idées. Puis, Éric Bazignan, je trouvais qu'on le surprotégeait. Je trouvais que Mbilly, puis le mieux, avait le droit à tout le budget des 168 livres. Puis que Éric Bazignan, lui, on n'arrêtait pas de nous répéter « Ah, il est proche d'un combat de championnat du monde. C'est le prochain. C'est le gars qui, dans le gym, est le plus près d'aller en championnat du monde. » Mais je trouvais que ça paraissait pas parce qu'il n'y allait jamais dans des combats importants. Puis on lui donnait des Saoul Roman, on lui donnait des Timo Lenn. Là, je me dis « Voyons donc, c'est qui nous ramasse ça? Des adversaires avec 12, 13 puis 14 défaites. » Si vous y croyez à Bazignan, payez Joël Le Vert. Puis allez me chercher quelqu'un qui va le préparer réellement pour un combat de championnat du monde. Puis là, tu chiolais. Moi, je suis super bon là-dedans, chialer. Et là, j'écris un texte sur Boxing Town pour chialer. 30 secondes après, pas 4 minutes, pas 5 minutes, 30 secondes après, j'apprends que Éric Bazignan va affronter Marcelo Esteban Cáceres, 30 victoires, 3 défaites, 1 nul, surnommé El Terrible, 41e au monde. Et, tenez-vous bien, là. Tenez-vous bien. Il est en train de faire le combat le plus serré possible, 2 juges contre 1, à Billy Joe Saunders, à Los Angeles. Saunders ne comprenait plus rien. On pensait même qu'il était fini. Saunders a réussi à le pincer sur un uppercut, mais il est en train de jouer un tour à Billy Joe Saunders. Après ça, il est allé affronter Edgar Berlanga son dernier combat en octobre dernier. Il a envoyé Berlanga au tapis, puis il avait gagné 3 rondes sur 10. C'est un gars... fait beaucoup penser à Carlos Ocampo. Tu sais, je vous ai raconté ça, la différence entre les Carlos Ocampo et les autres Mexicains, c'est que lui, il vient pas regarder l'adversaire boxer, il vient gagner, puis ta combinaison, elle va s'arrêter à 2, puis on va échanger. Puis c'est pas vrai que si on m'en lance 6, je vais regarder les 6 passer, puis que les juges vont donner 19 à l'adversaire. Mais c'est un peu la même chose que Serai. Si tu commences à lancer en combinaison 1, 2, 3, 4, lui, à 2, c'est à son tour. Fait que le 1, 2, 3, 4, le numéro 3, il embarque le 1, 2, 3, 4 de l'adversaire. Puis là, tu tombes souvent dans des échanges. Puis si tu as tendance à lancer ton jab un peu mou, lui, il va crocheter par-dessus pour t'assommer. Ou si tu as tendance à ramener les mains basses, mais il va t'assommer qu'un crochet. Tu sais, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui ne permet pas l'erreur chez l'adversaire. Tu dois être constamment en état d'alerte et constamment parfait de manière technique pour pas qu'il t'assomme ou qu'il essaye de t'assommer. T'sais, c'est un gars qui va tout le temps être alerte, qui va tout le temps échanger. Donc, ça fait des bagarres. Les Argentins sont réputés pour frapper dur et être tough. Donc, c'est lui, 41e au monde. Lui, il était classé 10e au monde à WBO. Quand Bazinian était numéro 1, mais Bazinian ne voulait pas aller contre Murdoch ou contre Saunders parce qu'on le laissait vieillir. Fait que c'était... Cosserais avait pris le combat. Il était numéro 10. Il avait pris le combat contre Billy Joe Saunders. Puis je veux dire, il avait très bien paru là, avant de... Mais de se faire... Il s'était fait assommer, mais... Il paraissait bien, là. T'sais. Je veux dire, il y a moyen de... Il y a moyen de bien paraître puis de te faire assommer. Puis en même temps, tu sais, c'est la grosse gomme. Billy Joe Saunders, tu sais, c'est pas gênant. Donc, voilà. C'est ça l'affaire. C'est que là, Bazinian, lui, est rendu classé, je pense, 5e chez, à la WBO. Et là, il y a le numéro 4 qui a perdu cette semaine. Comment il s'appelait? J'ai perdu son nom. Là, je l'avais mis sur un papier. Fedor Chudinov, qui était numéro 4, a perdu. Fait que c'est des choses devraient débloquer très, très vite pour Eric Bazinian. Et après ça, c'est de voir que fera Canelo, qui a toutes les maudites ceintures. S'il décide, on décide d'upgrader Canelo franchise ou Canelo décide d'abandonner les titres, là, c'est là que Eric Bazinian va profiter un peu de ce flou-là et aller ramasser un combat de championnat du monde assez vite, merci. Donc, c'est ça pour Eric Bazinian. Solide adversaire le 23 juin prochain. Si vous avez un combat sur la scène québécoise présentement à écouter, ben, je vous dirais que c'est le mieux contre Benavidez. Après ça, c'est assurément Pascal contre Fen Longmeng. Mais dans le trio, là, tu ne veux pas manquer Bazinian Cosserais. Je vous dirais même que je... Et ça, c'est bizarre, hein, parce que, tu sais, à qui je peux parler de ça, Cosserais? Ça intéresse pas personne. Les journalistes sont sur Kent Hughes. On est 132 à trouver ça le fun à chaque semaine, moi puis vous autres. Mais Bazinian contre Cosserais, je peux vous promettre que ça va être un bon combat, qu'il va y avoir des feux d'artifice, puis que ça va être stressant à un moment donné. Tu vas te dire, voyons, Bazinian, t'es en train de perdre. C'est un bon matchmaking. Ça va être un très bon combat. C'est la fine ligne entre il faut que Bazinian demeure invaincu, puis il faut que Bazinian ait des tests assez solides pour être prêt la journée qu'il va avoir sa chance en championnat du monde. On joue avec cette fine ligne-là. Est-ce qu'on va tomber d'un bord de la clôture ou l'autre? Je ne sais pas. Mais bravo à Stéphane Loyer, puis tu ne pouvais pas avoir un meilleur adversaire. Là. Je me répète, mais waouh! Oscar Rivas, c'est réglé. Il va se battre contre Lucas Rosensky en Roumanie, en Colombie le 13 août prochain. Qu'est-ce qu'on sait de Rosensky? C'est que c'est un gars qui boxait chez les lourds autour de 140 livres. 240 livres, ça, si ma mémoire est bonne. Et... Il a 36 ans, là, tu sais, c'est la chance de vie pour Rosensky. S'est fait connaître. Lui, il avait battu un Polonais qui s'appelait. Un autre Polonais, OK. Rosensky est Polonais. Il vient de Rzeszów en Pologne. Puis il avait affronté une grande légende polonaise qu'on surnommait Paul Nord parce que lui était noir, très, très, très foncé. C'est un gars de kickboxing qui s'appelait Izuagbe Oguno, qu'on avait connu parce qu'il faisait les camps d'entraînement de Tyson Fury, qui était un grand noir très foncé. Son surnom, c'était Paul Nord. Et lui, il allait très bien. C'était un gros prospect avant de se faire battre par Dominic Brazil et Lucas Rosensky dans un combat Pologne contre Pologne. Fait que Rosensky est devenu très populaire en battant ce Polonais-là. Après ça, il a battu l'autre Polonais, Arthur Spiska, mais Il l'a dévissé en 2 minutes. Et c'est là qu'il est devenu un incontournable pour Rivas. Fait que ça fait 2 fois là, qu'il dévisse des Polonais dans des combats locaux. Il frappe fort. Il se promène à 2,40. Il a fait 2,23 contre Spilska, bien entraîné. C'est un adversaire sérieux qui a définitivement une chance contre Oscar Rivas. Et ça, ça va avoir lieu le 13 août prochain. Et, restons sur la scène locale, on a appris. Et là, ça m'a fait rire ça, parce que moi, je trouvais ça grandiose comme nouvelle. Puis finalement, ben, tu sais, je trouvais ça grandiose, mais c'est une petite nouvelle que Yvon a mis sur son Twitter. Pour moi, il va y avoir une méga conférence de presse dans les prochaines semaines. On a appris qu'il allait avoir un tournoi chez les 154 livres, incluant, et là, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, la championne WBC Patricia Bergult, la championne IBF Marie-Ève Dicker, l'ancienne championne unifiée des 147 livres Cecilia Bracus et d'autres noms à être nommés. Moi, je m'attends à ce qu'on nomme Anna Rankin la championne de la WBA et que la seule qui ne soit pas dans le tournoi soit Natasha Jonas. Donc, quand tu vas sortir de ce tournoi-là victorieux, tu as tous les ceintures. Mais là, je vais vous assommer. La favorite, si les noms restent comme ça, c'est Marie-Ève Dicker. C'est du génie. Pourquoi? Parce que Bracus va probablement affronter Bergul ou Rankin en Colombie. Vu que Bracus est né en Colombie, elle a été adoptée par des parents norvégiens. Ou Dicker pourrait très bien être en demi-finale parce que comme ça, ça permettrait aux Colombiens, le promoteur, on aurait négocié ça dans le deal. Ça permet à Marie-Ève Dicker de faire une grosse bourse. Puis Yvon n'a pas besoin de sortir de l'argent de ses poches puis de la faire boxer ici déficitaire. Parce que là, elle se battrait là-bas. Puis c'est les Colombiens qui assumeraient le chèque. Je m'attends à une des deux options. Je m'attends à ce que Bracus ait droit à un combat de championnat du monde contre Rankin, Anna Rankin dans la ronde 1. Et que Dicker ait le droit, elle, à un combat d'unification contre Bergult. Les deux étaient déjà supposés s'affronter ici même, contre la Suédoise Bergult. Mais ce qui est incroyable, si ça marche comme ça, à moins que ce soit un tournoi à 8, mais j'ai l'impression que ça va plus être un tournoi à 4, qu'on va faire ça rapide. Mon impression, là, on verra ce qui va arriver, puis on s'ajustera. Mais ça veut dire que si ça fonctionne comme je pense, les deux prochains combats de Marie-Ève Dicker en sont d'unification, mais contre des filles, encore là, je présume que Rankin va être ajouté, très prenable. Marie-Ève Dicker peut facilement battre Anna Rankin, qui a une fiche de 11-5, peut facilement battre Patricia Bergul, qui n'a pas l'expérience puis le bagou pour tenir devant Dicker, puis devrait battre Cecilia Bracus, qui est rendue à 40 ans, qui n'a pas gagné depuis 3 ans, mais qui est encore super prestigieuse. Fait que ça, c'est du gros travail de Yvon. Yvon Michel, ses contacts, c'est spectaculaire. Et les deux prochains combats de Marie-Ève Dicker devraient en être d'unification. Fait que c'est quand même assez... c'est assez grandiose, ça. Bravo à Yvon, bravo à Marie-Ève Dicker pour le travail fait. J'avais pris des notes aussi, scène locale. On n'a pas fini notre tournée de la scène locale. Je crois que c'est la semaine prochaine. Je vais aller voir, à un moment donné. T'sais, on entend ça souvent, t'écoutes la radio, puis t'entends l'animateur qui varge sur Google pour confirmer les choses. Mais moi aussi, mais je l'ai fait doucement. Jeudi le 5 mai prochain, donc cette semaine, il y a une carte de boxe à Toronto. C'est Lee Baxter a signé avec DAZN. Et si ma mémoire est bonne, là, Lee Baxter a signé avec DAZN. On va en savoir plus bientôt. Jeudi de cette semaine, à Toronto, il y a Brian Acosta, qui est un genre de prospect qui a été signé par l'Ontario. Il va affronter un Mexicain, Sanchez Garcia. Il va avoir en sous-carte Steven Wilcox qui fait son retour. Wilcox, toujours intéressant de le voir. Puis Moz Awadhi, on nous vantait Moz Awadhi comme un méga prospect. Il s'est fait surprendre par un Mexicain. Là, il est en train de se repartir. Une carte de boxe à Toronto. Mais c'est samedi prochain que c'est le plus intéressant. Il y a deux cartes de boxe. Et j'admets que je suis curieux, OK? Il y a Ryan Ruzicki, qu'on a connu contre Oscar Rivas, qui va affronter Yamil Alberto Pereira chez les 200. Mais Pereira, il est quand même très bon, l'Argentin. C'est pas fait, ça? Ben, c'est pas fait. Il devrait gagner, Ruzicki, là, mais il y a un bon adversaire devant lui, c'est intéressant. Caroline Redman va affronter Simone Aparecida da Silva. Ça, c'est la Zozo qui avait signé contre Marie-Pierre Houlle et qui avait profité du billet pour aller se battre en MMA à Calgary puis qui s'était fait knocker, était disparue du gala. Elle est là aussi, mais il y a beaucoup de talent sur cette carte-là en Nouvelle-Écosse. Lucas Badi, qui est 10-0, va être de la carte. Jacques Daou, qui est un des beaux talents chez les moyens au Canada, va être de la carte. Et John Michael Blanco aussi va être de cette carte-là en Nouvelle-Écosse. La même soirée, on se dirige en Ontario. Zoé Darani va affronter Flavio Michel. Ça, c'est intéressant. Pour la ceinture des 147 livres. Cecilio Santos, qui est le salaud de... Il me semble que c'était le salaud de Mexicain qui avait donné tellement de coups de tête à Rudy Pierre-Paul qui l'a envoyé à la retraite. Puis l'arbitre faisait rien. Oh, un coup de tête par-ci, un coup de tête par-là. L'arbitre, lui, il disait pas trop rien. Il a envoyé notre beau petit Pierre-Paul à la retraite en 2016. Et il revient contre Justin Gandoza, qui est 14-0. Et Marie-Cruz commence en sauto que Martine Valabisson avait taillé en pièces. Elle se sentait mal. Elle était même quasiment allée y éponger le front. Je pense que ça a duré 30 secondes. Elle va affronter Bonnie Hunter. Fait que Bonnie Hunter, elle boxe plus chez les 140 livres. Donc, il n'y aura pas de combat possible avec Bisson. Puis Marie-Cruz Gomez-Soto, elle accepte n'importe quoi. Elle boxe à 120, 115. Puis là, elle va se battre à 120. Elle s'est battue à 123 contre Martine. Puis elle était déjà plus petite. Puis elle avait l'air désavantagée physiquement. Là, elle revient ici à 140 livres, quasiment du matchmaking dangereux, mais que si vous voulez, amenez-la. Il arrivera ce qui arrivera, probablement qu'elle fera pas long feu contre Bonnie Hunter. Alors, c'était... Alors, je fais une prédiction, Tyson Fury prendra pas sa retraite pour vrai, il va finir par revenir. C'était le podcast numéro 100... Je pense que c'est 124... Merci d'avoir été là. Et, en conclusion, j'aimerais saluer... c'est vrai, j'ai pris ça en note ici. Là, je vous sors ça de ma boîte à surprise. Et là, je cherche. Et là, vous m'entendez chercher. Ça va mal aussi que j'ai pris ça en note. Je sais pas. Toujours en direct. Au pire, je vais en profiter pour mettre une publicité. Hein, vous me connaissez. Toujours, ça me fait pas peur de mettre des pubs un peu partout quand je cherche. Je voudrais saluer les auditeurs vedettes cette semaine. Monsieur Billy Saint-Foy, qui est au Maroc. Il veut que je dise Assalam alaikum, que la paix soit avec vous. Au club de boxe Association Sportive Noujoum au Maroc. On est très écoutés au Maroc. Les entraîneurs Abdelhak et Feta, son beau-frère Hassan. Beaucoup de boxeurs au Maroc qui nous écoutent. Habib, Abdella, Fouad, futur champion. Fouad est le futur champion des 67 kilos. C'est la fierté de la ville de Fez Ayoub. Il m'a envoyé des photos. C'est magnifique. Hein? Le Maroc a quand même une culture de boxe et ça semble être un pays réellement magnifique. Je regardais il m'a envoyé des vidéos du gymnase. Ça ressemble un peu au club de boxe champion. Donc, Billy, Saint-Foy, à toi et à tous tes amis là-bas, on vous salue Et on est reconnaissant pour ce méga fanbase. On est probablement le podcast le plus écouté au Maroc. Merci et à la prochaine.
As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Gourme, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gourmands, jusqu'à Lucas Klitschko, jusqu'à Charlo, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on Art, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui met cold. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, avec Boxing Town.